Dans la société du XIe siècle, les moines sont les officiants d'une cérémonie de perpétuelle louange, en qui communient toutes les puissances créatrices de l'œuvre d'art. Cette dernière, intimement liée à la liturgie, l'est encore plus profondément à l'art musical. Georges Duby, Le temps des cathédrales.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
C'est en 910 que le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne, Guillaume Ier, fonde une abbaye à Cluny, en Bourgogne. Cette abbaye va devenir un immense empire monastique, pour reprendre une expression du grand historien Georges Duby. Comment expliquer que cette abbaye va bénéficier d'un immense prestige, en particulier au XIe et XIIe siècle? D'abord, un premier constat, c'est qu'elle a bénéficié de très hauts longs abbatiats. Les abbés, élus au Xe, XIe, XIIe siècle, ont souvent des abbatiats de plusieurs dizaines d'années. Ainsi, Mailleul est abbé de 948 à 994. Odilon, de 994 à 1048, plus d'un demi-siècle. Hugues de Sémur, de 1048 à 1109. Et enfin, Pierre le Vénérable fut abbé de 1123 à 1156. L'abbaye a donc bénéficié d'une indéniable stabilité. Mais évidemment, le prestige de Cluny repose sur autre chose. Tout d'abord, il convient de remarquer que les fondateurs de Cluny ont rattaché l'abbaye aux apôtres Pierre et Paul, donc à Rome. Et la charte de fondation enlève l'abbaye à toute intervention royale ou épiscopale. En fait, l'abbaye ne dépend que de Rome. Ceci est finalement relativement habile. Outre de mettre sous la protection des deux grands saints Pierre et Paul l'abbaye, le pape étant loin, le contrôle est souvent extrêmement lâche. L'abbaye bénéficie d'une réelle autonomie. D'autre part, l'abbaye de Cluny a fondé de très nombreuses filles, comme l'on dit, c'est-à-dire des abbayes qui dépendaient d'elle. On retrouve environ 1100 à 1200 dépendances au milieu du XIIe siècle en France, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Or, chaque année, ces abbayes-filles donnent des dons de numéraires à l'abbaye-mère. D'autre part, sur le plan purement spirituel, l'abbaye de Cluny est à l'origine de la fête du 2 novembre, de la fête des morts. On estime que c'est en 998 que l'abbaye a commencé à initier cette fête. Ainsi, Cluny devient le lieu idéal de la prière pour les morts, avec une liturgie quasi continuelle. Vers 1120, chaque moine prêtre célébrait au moins une messe privée par semaine. L'aristocratie, les élites de ce temps, déléguaient finalement à l'abbaye le soin de prier pour les défunts. L'abbaye bénéficia alors de dons multiples et nombreux de l'aristocratie, mais aussi des couronnes françaises, anglaises, castillanes, auxquelles il convient d'ajouter les revenus des terres et des dépendances de Cluny. D'autre part, l'abbaye a poussé à la réforme grégorienne et les abbés de Cluny ont soutenu la réforme de la papauté initiée au milieu du XIe siècle. L'abbaye de Cluny est devenue aussi le lieu de l'affirmation de l'orthodoxie chrétienne vis-à-vis des juifs, de l'islam, en particulier au moment des croisades de 1095 et 1149, et de la lutte contre l'hérésie. Pierre le Vénérable a fait traduire le Coran en latin pour mieux le réfuter. Enfin, il ne faut pas négliger l'influence politique qu'a l'abbaye. Hugues de Sémur, abbé de Cluny, est à Canossa en 1077, au moment de heurt entre papauté et empire germanique. Calixte III est élu à Cluny en 1119. Le roi Louis VII y rencontre le pape Eugène III en 1147. Louis IX y rencontre Innocent IV en 1245. Et ce qui vient finalement montrer la toute-puissance de Cluny, c'est l'immense construction, ce qu'on appelle l'abbatiale Cluny III. Elle fait 187 mètres de nef, 33 mètres de voûte. C'est, en ce temps et de loin, le plus grand bâtiment de toute la chrétienté latine. Aux alentours de 1100, c'est environ 600 moines qui, tous les jours, passent 7 heures à chanter l'office divin. Alors, comment expliquer, à partir du milieu du XIIe siècle, et surtout au XIIIe puis XIVe siècle, le déclin de Cluny? Les raisons sont multiples. D'abord, il est vrai que la réforme grégorienne, qui a été soutenue d'ailleurs par les abbés de Cluny, va finalement jouer contre leur propre autorité. Car en effet, la papauté va chercher à mieux contrôler l'abbaye. Et d'ailleurs, à partir de 1270, le Saint-Siège nomme l'abbé de Cluny. D'autre part, la réforme grégorienne a favorisé aussi le renforcement de l'autorité épiscopale. Or, les évêques, d'Autun en particulier, auraient voulu vérifier exactement ce qui se passait dans l'abbaye et contrôler les activités de l'abbaye. D'autre part, il est indéniable qu'il y a un relâchement de la discipline dans les centres clunisiens. On chante indéniablement 7 heures d'office divin, mais on travaille beaucoup moins et on s'enrichit beaucoup plus par les dons. Or, Saint Bernard et les cisterciens vont finalement attaquer ce mode de vie en disant que finalement, pour célébrer le carême, les moines de Cluny se contentent de poissons gras et qu'ils dépensent des folles sommes d'argent pour décorer leurs abbayes et leurs cloîtres. Saint Bernard, de ce point de vue-là, est un redoutable pourfendeur des Clunisiens. Ensuite, s'est posé le problème de la résidence des abbés. On s'aperçoit, à partir des années 1340, que les abbés de Cluny sont de moins en moins présents et qu'ils cumulent les bénéfices. D'autre part, la spiritualité change également. Les élites chrétiennes du début du XIIIe siècle, et du XIIIe siècle lui-même, et au-delà, ne souhaitent plus déléguer la prière à d'autres. Ils souhaitent intérioriser eux-mêmes cette prière. Ils souhaitent finalement qu'on leur parle des Écritures, par des homélies structurées, intelligentes. Ils souhaitent finalement plus participer à la vie spirituelle. Or, les franciscains et les dominicains, au XIIIe siècle, vont beaucoup plus répondre que le vieil ordre bénédictin à cette attente des chrétiens du temps. Si on rajoute à cela la crise économique du XIVe siècle, il est indéniable que l'abbaye connaît des difficultés. D'ailleurs, Robert de Chaussolles, abbé de 1416 à 1423, explique « L'ordre qui a été si éminent ne représente plus rien pour le port de l'habit régulier, la nourriture et l'observance des jeûnes, l'honnêteté des mœurs et la célébration du culte divin. » Tout a été dit, finalement, par le père abbé. Il y a bien eu, sous Jean de Bourbon, dans les années 1460-1470, une tentative de réforme. Mais finalement, les réformes tentées en cette fin du XVe siècle ne parviennent pas à redresser l'ordre clunisien. Le coup de grâce est peut-être donné par le concordat de Bologne, signé entre le roi François Ier et le pape Léon X, qui place l'abbaye en système de commande, c'est-à-dire que le roi choisit une personnalité, souvent bien sûr très fidèle à la couronne, pour devenir abbé de Cluny. Ainsi, le cardinal Mazarin, qui n'a jamais mis les pieds à Cluny, eh bien, est nommé abbé et gagne l'argent des terres encore riches de l'abbaye. En 1725, une enquête royale montre qu'il n'y a plus que 36 moines dans l'abbaye. À la veille de la Révolution, il n'y en a plus qu'une douzaine. Rendez-vous compte, une douzaine, alors qu'il y en avait environ 600, aux alentours de 1100. La dernière messe dans l'abbatiale est célébrée le 25 octobre 1793. Puis, le grand bâtiment se tait à jamais. L'abbaye a été vendue comme bien national en 1798 et pendant 25 ans, elle a servi de carrière de pierre. Il n'en reste aujourd'hui qu'un petit transept et un clocher, sauf qu'on a pu conserver les bâtiments du XVIIe siècle et quelques bâtiments du XIIIe et XIVe siècle. Sic transit gloria mundi.